avec nos intervenants que je vais vous présenter maintenant. Donc à ma gauche, David Blin, chef du bureau des familles et de la parentalité à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DGCS, donc du ministère des Solidarités et de la Santé. C'est lui qui a animé les groupes de travail préparatoires à cet article de loi et lui encore qui va animer les groupes de travail qui permettront d'aborder le contenu des futures ordonnances puisque la loi n'est qu'un cadre. Elisabeth Laitier à ma droite, adjointe au maire de Nancy, coprésidente du groupe Petite Enfance de l'Association des maires de France. Elle est aussi chargée d'une mission par Marlène Schiappa et Agnès Buzyn sur l'attribution des places en crèche. Donc une mission qui s'achève, je crois. Elisabeth Laitier, c'est la voix des communes, de leurs difficultés et de leurs aspirations. Elle ne manque jamais de le rappeler, donc je le rappelle, la petite enfance ne fait pas partie des compétences réglementaires des communes. Sylvain Forestier, président de la Fédération française des entreprises de crèche, les entreprises de crèche qui jouent un rôle important aujourd'hui dans la création de nouvelles places. À sa droite, le docteur Marie-Christine Colombo, médecin de PMI de Meurthe-et-Moselle, représentant ici le syndicat national des médecins de PMI. Elle a participé à l'élaboration du guide ministériel qui a été publié l'année dernière sur les EAJE à destination des PMI. Et elle n'a pas un rôle facile ici, parce que souvent les PMI, on leur reproche de ne pas interpréter, de ne pas appliquer la réglementation de façon identique d'une PMI à l'autre. Et à ma gauche, Birgit Hilper, éducatrice de jeunes enfants, qui est ici porte-parole de Pas de bébé à la consigne, qui est un collectif né en 2009, qui regroupe la plupart des organisations professionnelles de la petite enfance et des parents. Le combat de Pas de bébé à la consigne, en un mot, c'est la qualité de l'accueil. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, David Blin. Pouvez-vous nous rappeler quand même les points essentiels de cette loi et la façon dont elle a été préparée en concertation, je crois.
Merci beaucoup, Catherine, et merci pour cette invitation. Et merci à tous les grégeurs qui sont là au lendemain de la soirée Baby Cool. Le lendemain matin est jamais un bon jour pour organiser un événement, donc merci de votre présence. Comment en est-on arrivé à prendre cette disposition d'habilitation dans la loi pour un État au service d'une société de confiance? Ça remonte, je pense, à un constat partagé par l'ensemble du secteur qu'on a des difficultés collectivement à faire vivre le cadre normatif applicable au mode d'accueil du jeune enfant. Et le Haut Conseil des familles de l'enfance et de l'âge, à l'époque d'ailleurs simplement le Haut Conseil de la famille, avait indiqué dans une de ses recommandations au pouvoir public qu'il convenait de clarifier ce cadre normatif pour faciliter le développement de modes d'accueil. C'était en 2014 et l'année suivante, la Direction Générale de la Cohésion Sociale a commandé une étude qui visait à faire le point, à objectiver les points d'achoppement dans l'application de la réglementation EAJE. Et c'est sur la base de cette étude que des travaux ont été conduits par mes services pour aboutir avec la collaboration et l'engagement de toutes les parties prenantes à la publication l'année dernière du guide des normes applicables aux EAJE à l'intention des services de PMI. C'était un guide à droit constant qui a permis d'aboutir à des consensus sur certaines difficultés d'application ou d'articulation entre normes. Ça n'a pas permis d'aboutir à ce consensus sur l'ensemble des points. Et puis collectivement, nous sommes convenus qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas solubles à droit constant et qui convenait, dès qu'on procéderait à une reprise du cadre normatif, de faire évoluer. Là-dessus, nous avons eu l'occasion, à la faveur de cette loi aujourd'hui appelée pour un État au service d'une société de confiance, mais dans sa première mouture, qui était une loi de simplification et qui, dans son esprit, reste beaucoup une loi de simplification, de proposer à ce que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance en vue de simplifier, de clarifier, de mettre en cohérence la réglementation applicable au mode d'accueil en général, collectif comme individuel, donc les EAJE et les assistants maternels. Mais comme l'a rappelé très justement Catherine Lelièvre, il s'agit d'un cadre de travail. On ne s'oblige à rien faire avec une disposition d'habilitation, on se donne la possibilité de faire, et de faire toujours, comme c'est l'habitude de la Direction Générale de la Cohésion Sociale et de ce gouvernement de manière plus générale, en concertation avec les parties prenantes du secteur. Donc l'objectif de ces ordonnances, c'est sur l'ensemble du champ des modes d'accueil du jeune enfant, d'abord de clarifier, d'avoir quelque chose qui soit plus lisible en termes de réglementation. Ça peut passer par le fait de rassembler dans un même code un certain nombre de dispositions qui sont dispersées aujourd'hui, par exemple. De mettre en cohérence là où le cadre normatif, pour des raisons historiques, notamment de réformes qui ont été faites de manière partielle ou pas en même temps, de mettre en cohérence certains cadres normatifs. Quand on a le même nombre d'enfants, on se dit que c'est pas une mauvaise idée d'avoir le même cadre normatif qui soit applicable dans l'esprit, par exemple. Et puis de gagner également en efficacité et en équité, en efficacité pour qu'on soit collectivement plus rapide pour mettre en œuvre tous les contrôles qui restent nécessaires sur l'application de la réglementation. Et puis en équité, il faut qu'on ait un dialogue serein, constructif, qui permette d'avancer les arguments des uns et des autres dans la construction ou l'élaboration d'un projet d'accueil pour que collectivement on se mette d'accord sur la meilleure manière d'accueillir les enfants. Pour faire le lien juste avec la convention d'objectifs et de gestion État-CNAF et sur le timing de ces ordonnances, moi je trouve qu'on a une grande chance et donc collectivement une grande responsabilité, c'est de pouvoir revoir en même temps le cadre financier applicable, là en l'espèce, aux établissements d'accueil du jeune enfant, puisque c'est désormais plus un secret, la convention d'objectifs et de gestion comprend des dispositions d'évolution importantes du modèle de financement de la PSU, hein, par l'introduction de trois bonus, le bonus territoire, le bonus mixité et le bonus handicap, ainsi qu'un doublement des heures de concertation, du nombre d'heures de concertation qui passe de 3 à 6 heures. Donc on reprend ce cadre financier, qu'en même temps on puisse reprendre le cadre normatif qui n'a évidemment pas pour objet de délimiter ou de borner les coûts exposés par les établissements d'accueil du jeune enfant, mais qui a bien sûr pour effet, par les règles qui sont posées, de fixer un niveau de coût plancher en dessous duquel on ne répond pas. Donc on reprend en même temps le cadre financier, c'est-à-dire globalement le niveau de recette qui peut arriver vers les ESJE, et le cadre normatif. On redéfinit les objectifs, où on explicite les objectifs des modes d'accueil, notamment la qualité d'accueil et ce qui la compose, et on en déduit un périmètre de coût en cohérence avec le périmètre de recette. Je pense que c'est ça la logique globale des chantiers dans lesquels on propose de s'engager aujourd'hui.
Merci. Sur l'aspect dérogation, vous pouvez nous en dire plus ou pas du tout ? Non, pas encore.
Mais sur le fond, et sur la clarification, et sur les dérogations, et sur le guichet unique, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails aujourd'hui de contenu, précisément parce que c'est quelque chose qu'on construira avec les partenaires dans les mois qui viennent.
Alors, je vais faire juste un rapide tour de table pour savoir si... selon vous, cet article 50, il était nécessaire ? Est-ce qu'il fallait aller plus loin que le guide ministériel sorti l'année dernière ? Est-ce qu'il y avait vraiment urgence ? Est-ce qu'il y a vraiment urgence à simplifier les normes pour favoriser la création de places d'accueil ? Docteur Marc-Christine Colombo ?
Vous m'entendez ? Alors... Que ces dispositions soient nécessaires et utiles il soit légitime de vouloir rendre plus lisible et clarifier les choses autour des structures d'accueil, nous le reconnaissons bien volontiers, même si nous pensons aussi que cela doit s'étendre aux conditions de financement, hein, aussi. Mais Monsieur Blin l'a bien signalé. Par contre, nous souhaitons d'emblée déconstruire l'idée que la simplification des normes va automatiquement créer un développement quantitatif des places, de l'offre de places. En effet, à l'appui de cela, très très rapidement, on a connu des dérégulations de l'accueil en 2007 et en 2010, et il ne s'est pas suivi de rebond important de création de places. Et inversement, je dirais aussi que ce n'est c'est cette simplification ne suffira pas, ne sera vraiment pas de nature à répondre aux ambitions de développement. L'exemple que nous avons connu des micro-crèches a bien montré combien cette dérégulation n'a pas certes créé un certain nombre de places, mais pas pour tout le monde, pour une certaine catégorie de population, et pas toujours dans les lieux où ils étaient vraiment attendus.
Merci. Elisabeth Littier, je vous voyais opiner.
Merci. Vous m'entendez, tout le monde? C'est bon? D'accord. Oui, effectivement, je rejoins le docteur Colombo. Je ne pense pas, mais bon, je peux peut-être me tromper, hein. Je ne pense pas, si vous voulez, que ça va faire un appel d'air énorme pour la création de places. Voilà. Je ne le pense pas parce que, certes, cette clarification, cette simplification, elle est importante au niveau des normes, parce que un certain nombre d'entre elles sont quand même, d'une part, contradictoires. Je pense, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, quand vous construisez un EAJE, vous avez la hauteur des poignées de porte. Voilà, alors la hauteur des poignées de porte, le docteur Colombo sait très bien ce dont je parle, à savoir que, alors je vais vous dire des chiffres qui ne sont peut-être pas tout à fait exacts, pour des enfants, il faut que la poignée de porte soit à 1,20 m de hauteur. Bon, et puis vous avez les normes concernant les personnes à mobilité réduite, hein, qui sont venues assez récemment par rapport aux autres. Et alors là, les PMR, on va vous dire, ah ben non, il faut que ce soit à 80 cm de hauteur. Voilà. Alors là, déjà, quand vous construisez un EAJE, ben, vous mettez 120, vous mettez 80. Donc, si vous voulez, voilà déjà, par exemple, un point très précis dans les normes sur lesquelles nous, nous aimerions qu'il puisse y avoir un consensus ou je ne sais pas quoi qui sera réfléchi dans les différents groupes, mais voilà un point très précis. Donc effectivement c'est utile, effectivement c'est attendu. Après je crois qu'il y a bien d'autres facteurs incitatifs pour la construction de nouveaux EAJE. Donc il le faut. Nous avons d'ailleurs participé à l'AMF au travail préliminaire et nous demandons bien évidemment à être associés aussi, mais je sais que c'est prévu, aux travaux concernant les ordonnances, mais ce n'est pas la panacée. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire.
Sylvain Forestier.
Oui, merci. Encore une fois, de cette initiative et nous donner la parole. Je ne sais pas si on m'entend, parce que j'ai une réverbe un peu spéciale. Tout va bien. Écoutez, moi, je ne voudrais pas faire de langue de bois, puisqu'on a la chance d'être là entre nous. Je crois que la plupart des gens qui sont sur ce plateau ou dans la salle considèrent que la crèche, c'est pas le seul, mais un moyen d'accueil privilégié pour les jeunes enfants, et notamment pour les publics en difficulté. Or, aujourd'hui, à la Fédération des entreprises de crèche, les éléments qui sont en notre possession nous montrent, si on regarde en dynamique et en prospective et pas derrière nous, qu'on va avoir une baisse du nombre des EAJE en France, notamment du fait des fermetures qui se multiplient. Alors que dans les pays qui sont autour de nous, on assiste à un nombre de créations très important. Je vous donne un seul chiffre. Il y a peu de temps, un certain nombre d'années, il y avait davantage de places de crèche en France qu'en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous connaissez les chiffres, tout dépend du périmètre, mais en gros, on a 420 000 places de crèche en France, 850 000 en Grande-Bretagne. La problématique, elle est effectivement que nous avons des normes très contraignantes. Moi, je gère des crèches à Zurich, j'en gère en Angleterre. Il y a un certain nombre de ces crèches, et ce ne sont pas des pays, je pense, qui font fi de la qualité, qui fermeraient en France du fait des normes que l'on applique. Maintenant, comme le disait Elisabeth Lettier, les normes, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. En fait, on est pris dans un triangle. Et c'est pour ça que je voulais dire qu'il ne fallait pas faire de l'angle de bois. Le triangle de la petite enfance en France, ce sont les normes, le prix que les parents payent, qui est là aussi le plus bas d'Europe, et les financements publics. Parce que hormis les crèches d'entreprise, le financement, ce sont les parents, la CNAF et les villes. Tant qu'on est contraint dans ce triangle, il va être extrêmement difficile d'arriver à développer des places de crèche, parce que si vous baissez le financement public et que vous limitez les prix parents et que vous augmentez les normes, on est dans un triangle qui est absolument impossible. Je citerai un seul chiffre. Aujourd'hui, on a 47 000 euros de création, de coûts de création pour une place publique. Et on a un coût de fonctionnement qui est plus de 2 000 euros par berceau supérieur en France à l'année par rapport à d'autres pays. Je vais arrêter là. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce triangle normes, financement, public, prix par an, si on ne touche qu'aux normes sans toucher au reste, il ne faut pas en attendre des miracles. Je voudrais juste dire une phrase, c'est que les. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de micro-crèches? Pourquoi est-ce que les micro-crèches se sont autant développées récemment? C'est parce que justement, il y a un des côtés du triangle, c'est-à-dire le prix par an, auquel la micro-crèche a de la souplesse. Et c'est pour ça que les micro-crèches se développent. Donc, si on ne touche qu'un segment du triangle, ça va être extrêmement difficile de pouvoir développer les crèches.
D'accord. Donc, en fait, oui, il fallait simplifier, mais ça suffit pas.
Je pense que c'est très intéressant. Encore faut-il... Je dirais qu'il faut que la simplification se traduise par une baisse des coûts. Ça, c'est fondamental. Et il faut qu'on arrête de vouloir faire... Et là, je mets les pieds dans le plat. Il faut qu'on arrête de vouloir faire des crèches 5 étoiles parce que en France, on a les plus belles crèches d'Europe. C'est clair. Mais faire des crèches 5 étoiles où simplement une partie des enfants peuvent avoir accès parce qu'on ne peut pas payer plus, je trouve que c'est une erreur. Il faut que les crèches soient ouvertes au plus grand nombre.
J'ai vu que vous vouliez prendre la parole, mais je vais quand même donner la parole à Birgit Hilbert. Juste sur la première partie, est-ce que ça va dans le bon sens de vouloir simplifier? Est-ce que c'était nécessaire?
Bon, pour le collectif, vous l'avez dit, pas de bébé à la consigne. Notre combat, c'est la qualité. Regardez de ce point de vue-là, simplifier, est-ce que c'était nécessaire? On pense quand même que la plupart des normes ont une raison pour exister. Donc à partir de là, on peut trouver évidemment une aide nécessaire pour les communes ou pour les partenaires qui souhaitent créer des crèches. Donc là, peut-être il y a quelque chose de nécessaire. Avec un guide, comme il a été fait, certes, ça aide les porteurs de projets, comme on dit maintenant, à construire. Mais si on dit simplifier avec une loi qui permet de passer par ordonnance... on veut aller plus loin, et ça a été dit quand même assez clairement. Et la question, c'est quoi pour aller plus loin? Il y a des normes de bon sens, je pense, ou des normes où on peut trouver par le bon sens un compromis, comme la question des portes et des poignées. Ça, c'est, je pense, c'est l'exemple qui est toujours évoqué. Mais pour le collectif, les craintes avec cette simplification où on dit c'est une porte ouverte quand même à des réglementations, c'est qu'on touche aussi aux normes qui sont les normes de qualification des professionnels et les normes d'encadrement. Peut-être ça ne serait pas le cas. En tout cas, nous, on le souhaite que ça, on n'y touche pas. Mais je lis quand même parce que la COG a été évoquée. Dans la COG est écrit que l'État s'engage d'agir pour que les quatre normatifs et les règles de formation des professionnels soient plus aisées à appliquer pour les porteurs de projets et d'autres parties prenantes du secteur. Si je vais dans ma réflexion enquête un peu plus loin, ça veut dire demain on pourrait offrir des crèches avec moins de personnel qualifié qu'aujourd'hui, comme c'est déjà le cas dans les micro-crèches en partie, comme c'est déjà le cas dans les MAM, qui sont des cadres collectifs. Donc du coup, le collectif est inquiète, même si dans chaque phrase on met la loi simplification en respectant la qualité d'accueil. Dans ce cas-là, il faut définir qu'est-ce que c'est la qualité d'accueil.
Vous voulez dire quelque chose? Vous partagez, d'accord.
Juste une précision sémantique. Je partage tout à fait la dernière partie de l'intervention de la représentante du collectif. Et rappelez tout le monde sur les définitions, et notamment sur cette phrase de la COG. Elle était associée aux négociations de la COG, et notamment cette phrase, c'est moi qui l'ai réécrite. Et je prends soin systématiquement de parler de simplification du cadre normatif pour qu'il soit plus facile à appliquer. Simplifier, ça ne veut pas dire déréguler, pour reprendre un terme qui a été employé par Marie-Christine Colombo, ni surnormer, pour reprendre un terme qui, s'il n'a pas été employé par Sylvain Forestier, était pas loin de l'esprit de sa pensée, me semble-t-il. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de reprendre le système dans son entier, et au niveau législatif et au niveau réglementaire, pour que le système de normes soit plus simple à mettre en œuvre pour tout le monde. Et ça veut dire, c'est là que je rejoins tout à fait ce que vous disiez, madame, qu'il faut qu'on se mette d'accord d'abord sur les objectifs de la politique d'accueil et notamment ce qui compose la qualité d'accueil, qui est pour moi le point crucial.
Oui, allez-y.
Nous ne pouvons que rejoindre ce point de vue. Je voudrais citer un petit exemple vécu. Baccara, la cité du cristal, que vous connaissez peut-être, un bel équipement de 25 places. Une partie des 18 villages environnants qui forment la communauté de communes ne souhaitaient plus ou ne pouvaient plus, disaient-ils, financer leur contribution à cette crèche. Le maire de Baccara demande la réduction des places de 25 à 20 places. Cette crèche est installée dans des beaux locaux conçus pour la petite enfance et parfaitement adaptés. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? Une demande de création à 2 km de là, d'une micro-crèche, et dans les 2 km opposés, un autre village, une MAM. Aucun des deux projets ne seront prêts en septembre, donc il y a une rupture de continuité du service. Et la demande du médecin départemental de coordonner au moins les délais de fermeture est restée vaine. Deux réalisations en perspective dans des locaux non pensés pour la petite enfance. Je m'inscris un peu en faux, sur la question des 5 étoiles. Avec des porteurs de projets non expérimentés qui découvrent sur le tas les exigences liées à ce type d'équipement. Et qui, face au mécontentement des parents, risquent d'incriminer la lourdeur administrative. Faut-il incriminer des normes trop rigides ou des réponses trop longues des administrations ou une difficulté à réaliser une vision politique d'ensemble?
Bon, donc on voit bien aussi tout le débat. Donc on voit la lourde tâche qui va vous incomber, David Blin, au cours de la préparation du contenu des ordonnances. Vous pouvez peut-être nous donner votre méthode et nous préciser un petit peu comment ça va se passer?
Je l'ai un peu déjà dit dans ma première intervention, la méthode, ça va déjà être celle de la concertation, parce que évidemment, on fait rien d'intelligent tout seul, et surtout dans un secteur, encore plus dans un secteur où les compétences sont extrêmement partagées, et au niveau national et au niveau local. Donc on associera à l'ensemble des séquences de travail, l'ensemble des représentants, les parties prenantes de l'accueil du jeune enfant, donc ça veut dire les représentants de l'État, les représentants de la branche famille, des collectivités locales et des gestionnaires du SJE ou les représentants d'assistants maternels pour ce qui concerne le volet accueil individuel. Donc ça, ce sera un tour de table commun à l'ensemble des séquences de travail. Et puis, selon les thématiques des séquences, je vais annoncer après, on aura des partenaires occasionnels, des parties prenantes occasionnelles qui viendront s'exprimer sur tel ou tel aspect, soit d'une réglementation non spécifique au mode d'accueil, par exemple la réglementation personnes en situation de handicap, ou sur des champs connexes à l'accueil du jeune enfant, ou pour lesquels l'accueil du jeune enfant est un enjeu particulier. Je pense par exemple aux représentants des intérêts touristiques. Les communes touristiques sont très préoccupées par cette application du cadre normatif mode d'accueil. Alors ces séquences de travail, à ce stade, on en a défini 4. La première, que j'espère pouvoir faire avant la fin du mois de septembre, là j'enverrai le save the date en rentrant au bureau tout à l'heure, serait consacrée aux objectifs et aux différentes catégories des modes d'accueil. Donc les objectifs d'abord, je reviens sur ce que je disais à l'instant, je pense que si on veut se mettre d'accord sur les moyens de fonctionnement, sur les conditions, les restrictions à l'exercice de l'activité d'accueil du jeune enfant, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les raisons qui fondent ces conditions et ces règles relatives aux moyens. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le cadre normatif. On a commencé, je pense que c'est une grande avancée, à expliciter cette dimension avec la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Il faut qu'on reparte de cette base pour expliciter ce que vise l'accueil du jeune enfant. En ce qui concerne les catégories de mode d'accueil, voilà, on a aujourd'hui un certain nombre de catégories, pour pas dire un nombre certain, qui n'ont pas toutes été pensées ensemble, qui posent des questions d'articulation, de cohérence. Voilà, c'est le moment de remettre cette question des catégories de mode d'accueil sur la table. La deuxième séquence de travail, elle serait consacrée au rôle et responsabilité de chacun des acteurs de la petite enfance et de la manière dont ils interagissent. La manière dont ils interagissent dans ce qu'on appelle la gouvernance du secteur. Donc deuxième séquence de travail, qui fait quoi et comment on travaille ensemble entre acteurs de l'accueil du jeune enfant. La troisième séquence de travail, elle serait consacrée au cadre normatif spécifique à l'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire les règles qu'on pose sur l'exercice de cette activité, et du côté des crèches et du côté des assistants maternels. Et la quatrième séquence de travail serait consacrée au cadre normatif non spécifique au mode d'accueil, typiquement la réglementation accessibilité personnes en situation de handicap, la réglementation urbanisme, la réglementation panique incendie, toutes ces règles avec lesquelles vous vivez au quotidien et parfois vous débattez pour savoir si votre RP est 4 ou 5. Typiquement, les crèches ne sont pas les seules à se poser des questions là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre normatif non spécifique. Donc, quatre séquences de travail. Chacune sera probablement dense parce que le champ des normes concernées est large et parce que les avis des parties prenantes ne sont pas toujours les mêmes. On se donne un calendrier ambitieux pour le tenir. Une séquence de travail par mois. On commence en septembre, on termine en décembre, avec l'objectif d'avoir l'économie générale des ordonnances et au-delà des ordonnances de ce que j'appelle la reprise du cadre normatif applicable, puisqu'on aura à la fois des textes législatifs et des textes de niveau réglementaire. Donc les grandes lignes du paquet global de réforme de l'accueil du jeune enfant qui serait arrêté en décembre. Et je précise simplement qu'il s'agit d'un travail en concertation et à ce stade d'un travail technique. Donc l'objectif, c'est qu'en décembre, on a l'économie générale d'une réforme à proposer au niveau politique.
Si j'ai bien compris, en ce qui concerne les normes des EAJES, on ne sera plus à droit constant comme sur le guide ministériel.
On avait identifié dans le guide ministériel, à minima, des points qui n'étaient pas solubles à droit constant. Donc, à minima, ceux-là, on sait qu'on les fera bouger. Et puis ensuite, c'est le travail de la concertation que de déterminer si on doit aller plus loin dans l'évolution du cadre normatif.
Merci pour ces précisions. Je vais peut-être maintenant demander à chacun, puisque vous allez pour la plupart faire partie de ces groupes de travail, ce que vous voudriez absolument ne pas voir dans ces ordonnances et ce que vous aimeriez absolument y voir. Alors, allez-y.
Je souhaite commencer parce qu'effectivement, la plupart font partie du cadre de travail. Pas de pépé à la consigne ne sera pas convoqué a priori parce que dans la liste nommée manquent les professionnels et le collectif. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu en tout cas.
Alors,
donc après.
Attendez.
Je vais bien. Après, je continue vous, quand même à dire ce
qu'on
voudrait
pas. On va préciser s'il y a des professionnels quand même, David.
Ah oui, absolument, bien sûr.
Voilà. Non, c'était pas dans la liste des partenaires. Bon, on n'est pas des gestionnaires, donc du coup, voilà. Par contre, je peux peut-être revenir sur ce qu'on souhaite pas du tout va changer, c'est les normes d'encadrement. Donc le collectif se bat depuis des années maintenant pour plutôt améliorer le cadre, l'encadrement. Donc on veut plus qu'un adulte professionnel pour 8 enfants ou pour 5. Donc nous, on va plutôt vers un ou une professionnelle pour 5. Donc on ne souhaite pas qu'on aura encore plus d'enfants pour des professionnels actuels. Et on voudrait pas du tout que les qualifications changent. Ça veut dire encore le revoir à la baisse dans l'encadrement. Ça a été déjà modifié en 2010 avec le décret. Aujourd'hui, nous avons que 40% des auxiliaires ou des EGE auprès des enfants. On souhaite pas que ça va encore vers la baisse. On souhaite là aussi que ça continue vers le haut. Et je dis quand même, les normes d'architecture, ça touche aussi la qualité. Je dis ça parce que souvent, on fait comme si la conception de l'architecture, comment les salles sont engendrées, où se trouve la biberonnerie, par exemple, on fait comme si ça fait pas partie de notre quotidien. Mais les professionnels doivent faire avec ces détails architecture. Et ça a un impact énorme. Combien de kilomètres on doit courir pour chauffer un biberon, pour le chercher quand on est tout seul avec plusieurs bébés, par exemple. Ça, c'est un élément très pratico-pratique. Je pense que malheureusement, les professionnels, on ne se sent pas forcément ou très rarement entendu sur cet aspect-là. Donc, j'inclus y compris des aspects comme ça. Je ne pourrais pas faire toute la liste, mais des aspects très pratico-pratiques comme le biberon, comme les tables d'échange, pardon, et la distance des salles de sieste, par exemple, tout ça fait partie, pas directement de normes qui concerne les professionnels, mais indirectement, toutes ces questions-là, l'espace qu'on laisse aux enfants, le mètre carré qui souvent est très réduit, là aussi, on est concerné. Ça concerne après nos conditions de travail pour les professionnels, mais surtout les conditions de l'accueil et d'épanouissement pour les jeunes enfants. Donc après la carte, je termine avec ça, le cadre national pour l'accueil du jeune enfant. Je sais pas, les professionnels le connaissent un peu.
Bien sûr.
C'est 10 points, mais chaque point nécessite à clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire les professionnels qui ont la distance, le recul nécessaire pour accueillir tous les enfants, n'importe la situation de famille. C'est un travail professionnel à la base. Donc du coup, c'est des justifications, des explications pourquoi il ne faut pas toucher à toutes ces normes-là.
Très bien, merci. J'ai cru comprendre, David Blin, que la charte, justement, que le cadre national pour l'accueil du jeune enfant qui découle du rapport Jean Pinault, ça va être votre curseur pour évaluer la qualité de l'accueil et que tous les changements ne nuisent pas à la qualité de l'accueil.
Ce sera la boussole.
D'accord. Elisabeth Léquier.
Merci beaucoup. Alors, je vais juste insister sur un point, parce que nous, à l'AMF, c'est vraiment le point principal. Je rejoins ce que disait Madame. Il s'agit de la qualité de l'accueil, il s'agit de l'encadrement et il s'agit de la qualification des professionnels. Alors, c'est très important pourquoi ? Parce que derrière qualification des professionnels, il y a une masse salariale. Bon, là, je parle un petit peu en gestionnaire, hein. Une masse salariale, on sait très bien que dans un EAJE, 75%, c'est le volet des ressources humaines. Voilà. Donc, ne nous cachons pas là non plus derrière des idées. Cela étant, un point sur lequel vraiment, vraiment, nous ne céderons pas, c'est le fait que revoir des normes entraînerait une baisse de la qualification et une baisse de l'encadrement du personnel. C'est vraiment la position très claire de l'AMF, que d'ailleurs David Blin connaît, on a déjà beaucoup échangé sur ce sujet. Certes, il y a une pénurie de personnel qualifié, mais il est hors de question que cette pénurie débouche sur une qualification moindre des personnels qui encadrent les enfants. Nous, ce sur quoi nous proposons plutôt de réfléchir, c'est sur le développement de filières, de formations, des professionnels à tous les niveaux, hein, qui soient plus accessibles financièrement, voilà, plus accessibles au niveau localisation. C'est également extrêmement important, et que ces filières de formation intègrent aussi des enjeux nouveaux qui correspondent à l'évolution de la société. Par exemple, nous avons énormément de demandes émanant de parents. Donc en fait, quand on accueille des tout-petits, on finit par faire aussi du soutien à la parentalité. Or aujourd'hui, le personnel est extrêmement, j'allais dire, ouvert à tout ceci, mais n'a pas forcément les bons outils. Parce que ces bons outils n'ont pas été donnés dans les formations, c'est tout, parce que ce n'était pas comme cela. C'était des formations qui étaient surtout essentiellement sanitaires. Alors certes, ce sont des tout petits que l'on accueille, donc le volet sanitaire ne peut pas être écarté, mais je pense qu'il faut y ajouter d'autres choses. Voilà, y ajouter d'autres volets dans les formations. Encore une fois, bon, c'est l'exemple du soutien à la parentalité. Donc, si vous voulez, nous, au niveau de l'AMF, nous sommes extrêmement attachés à la qualification des professionnels, à ce fameux quota 50-50 ou 40-60. J'en veux pour preuve que dans les structures municipales, nous avons majoritairement, très majoritairement, gardé le 60% personnel qualifié, 40% personnel non qualifié. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, disons, auquel nous serons, nous, dans les discussions, hein, extrêmement, extrêmement attentifs et vigilants. Voilà, ne pas abaisser la qualité de l'accueil et la qualité de l'encadrement, et au niveau de la formation et au niveau du nombre. Voilà, du ratio personnel enfant accueilli.
Et qu'est-ce que vous voudriez y voir, alors, dans ces ordonnances qui...
Ah bah, écoutez, ce que je voudrais y voir, c'est le maintien de ce qui existe au niveau qualification. C'est effectivement la réflexion menée, mais je ne sais pas, d'après ce que David Blin nous a expliqué, si ça entrera dans les groupes. Cette méthode de travail nous convient très bien, par ailleurs. Voilà, après on va y voir ce que chacun y mettra, hein, ce que chacun des partenaires va y mettre, mais vraiment, je l'ai dit, une attention très précise à la qualité de formation des professionnels. Et également, alors là, je parle, j'allais dire pour Madame Colombo, donc je ne dirai juste qu'une phrase, attention au rôle de la PMI. Voilà, nous élus, nous ne sommes pas forcément pédiatres ou je ne sais quoi, et nous avons besoin d'avoir à nos côtés, alors dans leur cœur de métier, hein, peut-être que les normes de hauteur de porte ou d'autres choses, je ne sais pas, mais dans leur cœur de métier, nous avons besoin, nous élus, d'avoir à nos côtés les services de PMI et voilà et des médecins spécialisés pour encadrer les professionnels et les décisionnaires que nous sommes.
D'accord. En revanche, sur la simplification des démarches, sur l'idée d'un guichet administratif unique, ça peut quand même aider les petits gestionnaires
territoriaux. Oui, tout à fait. C'est une piste à réfléchir. Elle est intéressante à la condition que chacun des grands partenaires, à savoir globalement la CNAF, le département et les gestionnaires, soit bien respectueux du rôle de chacun. C'est-à-dire que ce guichet s'arrête vraiment à un stade où après chacun reprend le rôle qui lui est dévolu.
Je vois David Blanc. On s'adresse à vous, hein. Sylvain Forestier.
Oui, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on veut faire de la magie, parce que globalement, on voudrait avoir plus de qualité avec moins d'argent. C'est parfois possible, mais c'est très difficile. Aujourd'hui, vous avez l'enveloppe globale qui est dévolue par la CNAF à la petite enfance dans le cadre de la prochaine COG, qui va baisser en francs constants, notamment du fait de l'inflation qui est importante et du plafonnement des progressions. La seule façon de pouvoir, si on reste dans ce cadre, et ce que je dis se situe dans ce cadre, puisque la coche c'est ce qui va nous gouverner dans les années qui viennent, la seule façon de pouvoir faire bouger un petit peu les lignes, c'est soit en ouvrant des crèches en entreprise, puisqu'on amène de l'argent entreprise, soit en revoyant ce que vont payer les parents, ce que font les micro-crèches. L'exemple que donnait Madame Colombo à Baccarat, je connais pas le dossier, mais il est typique de ce que l'on voit très souvent. Vous avez des villes qui se désengagent parce qu'elles ont des coûts. Vous avez des crèches dans lesquelles les financeurs traditionnels se désengagent et à côté s'ouvre une micro-crèche. Pourquoi s'ouvre une micro-crèche ? Parce que la micro-crèche, ce sont les parents qui vont payer en fait. Si on pouvait, dans le cadre d'une crèche, faire payer davantage les parents, la crèche serait viable. Donc là, on voudrait faire quelque chose où on va garder le cadre financier, voire le dégrader, puisque les villes ont moins d'argent, donc veulent moins financer les crèches. La COG va avoir des financements qui, en francs constants, vont baisser, notamment dans les zones qui ne bénéficieront pas de bonification. Et on voudrait maintenir, voire augmenter la qualité. C'est mathématiquement impossible. Bien sûr qu'on veut faire plus de qualité, mais à un moment donné, la qualité, c'est aussi de l'argent, pas que. Alors, il y a quand même des choses à faire. David Blin disait, nous sommes pour la déréglementation. Pas du tout. Nous, on considère que dans beaucoup de cas, il y a des normes qui sont pas claires dans les EAJE, notamment en matière immobilière. Ce que l'on souhaite, c'est avoir des normes qui soient cohérentes, notamment en matière d'aménagement, avec les ressources financières des gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés ou associatifs. Et ce que l'on souhaite, c'est que ces normes soient opposables. C'est-à-dire que si on a une liste de normes et que ces normes sont respectées, le EAJE ouvre. Donc nous ne sommes absolument pas pour une sous-norme, nous voulons au contraire des normes, mais des normes claires. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses à faire. On peut améliorer la qualité, on peut arriver à avoir des ouvertures de crèches qui repartent un peu. Je suis d'accord avec Madame Letty, on ne va pas faire des miracles avec ça, mais on pourrait en tout cas éviter des fermetures si on fait un certain nombre de choses. La Fédération des entreprises de crèches a rédigé un petit opuscule dans lequel on liste tout ce que l'on souhaite. Je peux citer quelque chose. Par exemple, les auxiliaires de puériculture, vous savez tous qu'il y a une pénurie considérable, notamment dans certaines zones tendues. Or, c'est impossible aujourd'hui d'ouvrir des nouvelles écoles d'auxiliaires. Mon entreprise a ouvert une école d'auxiliaires, on voudrait ouvrir une deuxième, ça nous est très difficile. Et lorsque les écoles fonctionnent, c'est très difficile d'arriver à trouver des stages pour les auxiliaires de puériculture. Une de nos propositions, c'est d'avoir des auxiliaires de puériculture qui pourraient se dispenser de stages hospitaliers, sous réserve que leur diplôme ne puissent pas donner droit à exercer en hôpital. Ce seraient les auxiliaires de puériculture, par exemple, qui seraient pour les crèches. Ça serait un moyen de pouvoir, quitte à ce qu'ensuite ils puissent évoluer via des formations complémentaires, mais ça serait un moyen de pouvoir faciliter des choses. Ça n'est pas du rabais, ce serait toujours des auxiliaires de puériculture, mais ça permettrait de pouvoir débloquer les choses. Créer des nouvelles écoles d'auxiliaires, ça permettrait de débloquer la situation. Le guichet unique, on y est évidemment très favorable, parce que là aussi, je crois qu'on est le seul pays d'Europe à avoir deux guichet et deux autorités de tutelle, c'est très compliqué. Un dernier exemple qui touche plus les crèches d'entreprise, mais encore une fois, l'intérêt des crèches d'entreprise, c'est qu'on amène du financement privé, c'est-à-dire que l'entreprise paye pour les salariés, donc ça permet de compléter, et là, pour le coup, d'avoir davantage de moyens pour faire davantage de qualité. La particularité d'une crèche d'entreprise, c'est qu'une crèche d'entreprise de 60 places, par exemple, 60 berceaux, elle va très souvent ouvrir avec 30 berceaux. Pourquoi ? Parce que on va commercialiser 30 berceaux lors de l'ouverture, et ensuite il faudra attendre que les entreprises du voisinage viennent voir pour pouvoir monter en puissance. Si la crèche en ouverture et pendant un an n'accueille que 30 enfants, ça serait logique de ne pas avoir le même nombre de professionnels que si on en avait 60. Or, on a certains départements où on nous demande d'avoir le postage de 60 berceaux alors qu'il n'y a que 30 enfants pendant un an. Bien évidemment, c'est pas possible et ça condamne la structure. Avoir une norme qui fasse qu'on respecte la loi, c'est-à-dire 1 pour 5 et 1 pour 8, bien sûr, mais que la loi. C'est-à-dire que s'il y a 1 pour 5 et 1 pour 8, on va pas mettre le double de personnel sous réserve que l'agrément permettrait un jour d'accueillir 60 berceaux. Voilà des exemples clairs qui dégradent pas les qualités et qui permettraient de nous simplifier la vie.
Merci. Docteur Colombo.
Oui, donc très rapidement, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit sur le maintien de la qualité. C'est absolument indispensable si on veut, considérer que l'accueil des enfants dans les crèches, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, c'est un investissement social et que cet accueil doit être accessible à tous. Pas seulement aux gens qui travaillent, et donc l'histoire des crèches d'entreprise ne va pas dans ce sens. Donc je crois qu'il faut clarifier effectivement la question de la politique qu'on veut appliquer. En effet, les crèches d'entreprise bénéficient d'un crédit d'impôt, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt pour financer les crèches, et de ce fait là c'est évidemment réservé plutôt aux parents qui travaillent. Or, on est bien d'accord, il faut partir du cahier des charges de la charte nationale et dire est-ce qu'on veut, comme le dit d'ailleurs, le souligne aussi le Haut Conseil pour l'enfance et l'âge, est-ce qu'on veut accueillir en premier, c'est la première priorité, tous les enfants. Et j'ajouterai un deuxième point, donc je suis d'accord, je répète pas tout ce qui a été dit sur la qualité, sur la formation. Évidemment, on est en parfait accord avec Pas de bébé à la consigne et l'AMF sur ce point. Je voudrais dire aussi, il y a une préoccupation importante, c'est l'équité territoriale. C'est une vraie problématique, notamment dans l'installation des micro-crèches sur lesquelles nous heurtons à l'heure actuelle, non pas qu'on soit contre l'installation de ce type de structure si elles répondent aux normes, mais elles s'installent pas toujours à l'endroit où les priorités conjointes d'ailleurs de la CAF et du conseil départemental désignent un territoire prioritaire, et pour cause, puisque pour payer 10 euros de l'heure au maximum, voilà, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas. Donc la question du reste à charge pour les familles est indissociable, à mon sens, de la question de l'accueil du jeune enfant.
Avant de passer éventuellement le micro dans le public pour des questions, quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit ?
Une phrase, la pénurie des professionnels auxiliaires ou aussi EGE, c'est connu depuis des années. Ça fait au moins 15 ans que la pénurie est connue. La pénurie a augmenté. Mais elle a augmenté pourquoi ? Parce que les différents responsables de la formation à tout le niveau, hein, je dis l'État, les régions, etc., se sont renvoyés la balle depuis des années pour ne pas trouver une solution. Maintenant, on est dans une situation où oui, mais il faut faire avec, il faut trouver quelque chose, etc. Et pour le collectif, ça fait depuis 2010, nous avons fait des propositions. Comment on fait une formation ? Comment on peut développer la formation, le contenu, une démarche en quantité de personnel à former, malheureusement, on n'était pas entendu. Donc, du coup, je trouve toujours dommage qu'on dit, à un moment donné, c'est tellement grave, maintenant, il faut quasiment déréglementer, même si on peut dire c'est à la marge, mais c'est quand même pas si à la marge que ça. Parce que les autorités responsables n'étaient pas en capacité de réagir à un moment donné. Donc je trouve que c'est un regret pour les professionnels, mais aussi évidemment pour les familles et les enfants, parce que je pense qu'on ne peut pas faire payer les jeunes enfants le manque de formation et le manque d'action en amont.
Oui, absolument, parce que c'est un exemple complexe et intéressant. Ce que vous dites est globalement, je pense, tout à fait vrai. Et la manière dont on va essayer de rentrer dans l'exercice là pour les 6 prochains mois, c'est dans une vision d'équilibre. Là, vous l'avez compris, et puis les témoignages des uns et des autres le montrent, ça va être un exercice d'équilibre, voire d'équilibrisme, de préparer le contenu de ces travaux. Je pense qu'il faut qu'on traite simultanément un problème de court terme. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour ouvrir des crèches avec des professionnels qualifiés dedans? Et un problème de moyen terme, comment est-ce qu'on fait pour qu'à horizon 5 ans, 10 ans, on ne soit pas mis face à un état de fait, face au pied du mur, et qu'on ait bien un système de, grosso modo, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences locales en matière de petite enfance qui fonctionne. Et je pense que si on traite les deux questions en même temps, on peut à la fois donner droit à la légitime préoccupation des professionnels du secteur exprimée aujourd'hui par le collectif Pas de Bébé sur le fait qu'on a besoin d'avoir une vision à long terme sur la manière dont le secteur se dote de professionnels en nombre suffisant pour faire face aux besoins, et de faire droit aussi aux légitimes attentes des gestionnaires et des parents, dire j'ai un enfant, j'ai un boulot ou j'ai pas de boulot d'ailleurs, et je veux qu'il soit gardé, et si possible, puisqu'on a le principe du libre choix du mode d'accueil, qu'il soit gardé en crèche. Voilà. Je pense que la question, si on introduit la question du court terme et du moyen terme, ça permet de dépasser la contradiction apparente sur un certain nombre de sujets entre les points de vue.
Oui, je voudrais rebondir sur cette question de formation. Je suis complètement d'accord avec David Blain. Aujourd'hui, on va être contraint de trouver des solutions court terme pour se confronter au principe de réalité, tout en visant du moyen terme. Ce que disait Pas de Bébé à la consigne est tout à fait vrai. Admettons que on soit toujours dans la logique qu'on avait il y a quelques années de création de 10 000 places nouvelles par an. Malheureusement, je crains que c'est pas du tout ce qui va se passer, bien que ça serait nécessaire, mais qu'on crée 10 000 places par an. 10 000 places par an, c'est 3 800 ou 3 900 professionnels, donc la moitié d'auxiliaires de puériculture. Sur 3 ans, ça veut dire plus de 5 000 auxiliaires de puériculture. Si on était dans ce contexte-là, avec un système de formation qui n'en forme aucune en plus d'une année sur l'autre, on pourrait dire qu'on veut faire du 50-50, mais les professionnels ne sont simplement pas disponibles. Donc ça servirait à rien de dire on veut 50, on veut 50, on veut 50. On a besoin de 5000 professionnels de plus. Elles n'existent pas. Donc si vous voulez, le problème de base que l'on a sur la petite enfance en France, c'est nos aspirations confrontées au principe de réalité. En l'occurrence, pour les écoles de formation, c'est même pas une question de financement, puisque la plupart des écoles sont privées. Plus globalement, sur l'ensemble des autres questions qui étaient envisagées, c'est beaucoup effectivement une question de financement. Mais maintenant qu'on est dans ce principe de réalité, il faut voir ce qu'on peut faire à court terme, ce qu'il va falloir faire pour faire en sorte que ça soit vivable, faire repartir la machine et après se donner des objectifs de moyen terme.
Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour. Moi, je suis confrontée de temps en temps à des problèmes avec les PMI qui, d'une région à une autre, d'un département à une autre, d'un arrondissement à un autre, acceptent ou refusent des produits qui pourtant sont labellés, normés, NF et certifiés non seulement en France, mais dans tous les autres pays. On ne sait pas quoi faire, on accepte la décision, mais on la trouve très injuste.
Vous pouvez vous présenter.
Donc je suis Anne-Marie Faure, directrice commerciale de la société ABBA, donc fabricant de mobilier de collectivité.
Alors c'est vrai que je me suis promenée dans le salon avant de venir ici. J'ai vu beaucoup de produits qui affichent normes françaises, qui sont de très jolies choses, etc. Mais j'ai vu aussi des choses qui, en France, notamment par des présentateurs étrangers, qui notamment ne seraient pas considérés comme acceptables aux normes. J'ai vu beaucoup de petits lits avec des tours de lit, hein, même le carnet de santé, a banni dans la représentation de l'image du berceau ces tours de lit. Donc, effectivement, il y a une difficulté à faire admettre un certain nombre de choses. Et donc, l'autre autorité de santé qui a préconisé, je donne cet exemple-là parce que je ne peux pas aller sur tous les exemples, l'a argumenté pour des raisons extrêmement précises. Ça ne fait pas partie des normes réglementaires des PMI, donc j'aurais tendance à répondre à votre question. La norme est la seule norme exigible réglementairement, c'est ce qui s'impose au médecin départemental. Il ne peut pas. D'ailleurs, c'est une contradiction avec la dérégulation qu'on souhaite. Alors, on voudrait des dérogations et puis on enferme le médecin de PMI dans des normes extrêmement... les seules normes exigibles. Donc, le problème de la norme, c'est qu'elle est bête et méchante. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il suffirait d'avoir une norme pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si on considère qu'il faut un professionnel qui soit en capacité de prendre en compte le contexte, les palliatifs, le cas échéant que l'on trouve, la manière de concevoir cet accueil, eh bien, on pourrait s'affranchir d'un certain nombre de normes extrêmement strictes. Donc, à la fois, c'est un peu normal que vous ayez des interlocuteurs différents, mais des professionnels, et je pense que je rejoins un peu ce que disait Elisabeth Laitier. C'est vrai que les structures sont très demandeuses de nos conseils. Alors, qu'ils ne soient pas univoques, je dirais presque heureusement, mais ce qui est absolument important, c'est que le dialogue soit possible. Et de toute façon, on ne peut pas vous opposer une fermeture parce que vous avez un lit bleu au lieu d'un lit blanc, enfin, ou un... voilà. Mais par contre, les conseils, vous pouvez les suivre ou ne pas les suivre et argumenter et discuter avec le médecin départemental, le médecin de PMI qui...
C'est notre client qui choisit, par exemple, un lit qui est accepté partout ailleurs et dans un arrondissement, mettons, de Paris, le médecin de PMI va refuser ce lit.
Et alors, je vois pas comment il pourrait refuser. Il peut vous dire que lui, il considère que ce lit n'est pas adapté. Il doit vous expliquer pourquoi.
Il a expliqué. Alors, voilà. On va parler d'un cas concret. C'est un lit mousse avec des bords en mousse.
Ah oui.
Et donc, il y a accepté partout dans 52 pays dans le monde, plus en France, sauf dans un arrondissement de Paris, où le médecin de PMI dit on a peur de l'étouffement. Mais il y aurait le même problème si le bébé se retournait et s'étouffait sur son matelas.
Alors c'est vrai que l'inventivité des exposants est très très grande, j'ai pu le constater aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui posent questions et sur lesquels on peut discuter. Mais pour avoir travaillé sur la prévention de la mort inexpliquée du nourrisson, je peux vous dire que les responsables qui, sur un département comme la Meurthe-et-Moselle, reçoivent 10 à 12 enfants dans cette situation, eh bien, font de la prévention avec nous et travaillent cette question-là de manière très très sérieuse, au-delà de la question de vendre un produit, si vous voulez. Donc là, c'est quand même l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en jeu. Alors, je ne peux pas trancher sur cette question du messien Bormousse. Je pense que je ferai partie des médecins qui refuseraient aussi ou qui vous déconseilleraient de prendre.
Enfin, ce qui est quand même étonnant, c'est que toutes les autres PMI l'acceptent. Parce que
le problème, ce n'est pas le produit, c'est la non-uniformité de la décision. Parce que si tout le monde nous disait non, on supprimerait le produit. Oui. Le produit, il est valable et accepté partout, sauf... à un moment à donner par une personne.
Moi je pense qu'il y a un certain... Je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec vous, Anne Colombo. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on peut avoir des normes qui soient opposables. Je vous prends un exemple parmi tant d'autres, notamment en ce qui concerne le mobilier, mais aussi l'urbanisme et l'architecture, bien sûr. Un exemple, c'est la luminosité. Lorsque vous faites un ERP qui n'est pas une crèche, vous avez des contraintes de luminosité qui se mesurent en luxe. Et donc, on peut parfaitement définir pour tel ou tel type de pièce. On va pas avoir la même luminosité dans un lieu de sommeil, un lieu de vie ou une cuisine. Mais on peut parfaitement définir pour une crèche, en nombre de luxe, la luminosité qui est demandée. À partir du moment où on mesure que, et il y a des appareils pour faire ça, à partir du moment où on mesure en nombre de luxe qu'il y a la luminosité demandée par les normes, le médecin de PMI ne peut pas dire qu'il trouve que c'est pas assez lumineux. Or aujourd'hui, c'est ça qu'on a. On va voir un médecin qui va dire c'est pas assez lumineux. C'est difficile de lui répondre parce que on n'a pas les normes en face. Donc vous voyez, Monsieur Blanc, je ne suis pas en train de dire que je veux pas de normes. Moi, j'aimerais bien avoir des normes de luminosité. Ça nous permettrait d'avoir d'éviter ce genre de situation. Parce qu'effectivement, les demandes des médecins d'un département à l'autre sont extrêmement hétérogènes.
Alors, je me permets quand même de répondre à ces questions-là. Qu'il y ait inhomogénéité des réponses, je veux bien l'admettre parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de l'ensemble des recommandations officielles. Mais pour cette question-là, la réticence du médecin, d'une part, il ne peut pas, ce n'est pas une norme opposable. Déjà, les luxes ne sont pas une norme opposable. Mais s'il y a une raison raisonnable pour préconiser cela, peut-être que c'est les 90 autres qui valident ce type de lit qui viendront à modifier leur attitude parce que ce lit-là n'est pas adapté. Les choses sont en évolution et ce qui m'étonne surtout et ce que je ne comprends pas du tout pour le coup, c'est qu'un dialogue ne puisse pas s'instaurer et que ça apparaisse comme un personnage tout puissant qui vous dicte la manière de faire. Mais pour répondre aussi à monsieur, moi je n'ai jamais vu dans les structures publiques ce que je vois actuellement dans les micro-crèches. On me propose des bâtiments borgnes ou avec des châssis fixes, pas d'aération, alors qu'on a à côté de ça des normes relatives à la qualité de l'air sur lesquelles on ne peut que être d'accord, uniquement parce que c'est sur des opportunités bâtimentaires que on va décider de créer des places dans des garages, dans des vestiaires de foot. L'histoire de Baccarat, c'est dans un vestiaire de foot. On ne peut pas parler de qualité bâtimentaire, ce que disait là, si on accepte ce type de choses. Donc, ne disons pas qu'on pinaille sur des choses et que ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas des choses opposables. Le dialogue doit être possible. Hein. Je peux que vous encourager à solliciter le médecin départemental ou un autre médecin de PMI ou engager le dialogue là-dessus, faire comprendre pourquoi personne n'accepte qu'on lui dise c'est comme ça, point barre. Enfin, c'est quoi ce on n'est pas dans un pays.
Merci. Nous, on a d'autres produits de proposition, donc on propose autre chose. C'est pour la personne responsable de la crèche que c'est embêtant. Parce qu'elle avait un projet, elle avait un choix, et en fait, le choix est refusé. Mais personne ne conteste jamais une décision d'un médecin de PMI.
Alors, je dois être parmi ceux à qui c'est arrivé, parce que...
D'autres questions ou témoignages ?
Bonjour, moi je suis Roselyne de Sancy, diplômée d'État auxiliaire de puériculture et éducatrice de jeunes enfants. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, j'ai créé ma société dans le but d'être porteuse de projets et je me suis heurtée à la difficulté de trouver des locaux. Donc aujourd'hui, je propose d'accompagner les professionnels sur la compréhension, la gestion des conflits au sein des équipes. Et moi, en fait, j'avais une question, c'était concernant justement les formations pour les auxiliaires de puériculture, puisque Monsieur Forestier, en fait, vous proposiez justement peut-être de réduire le contenu des formations des auxiliaires de puériculture au niveau des hôpitaux. Moi, je voulais dire, pour ma part, les équipes de professionnels au sein des EAJE et autres, elles sont très complémentaires, à savoir que déjà, le métier d'une auxiliaire de puériculture est différent du rôle et des fonctions d'une éducatrice de jeunes enfants. C'est beaucoup plus axé quand même sur le médical, le paramédical. Elles ont pour rôle de répondre aux besoins primaires de l'enfant, de le nourrir, de répondre à tous ses besoins fondamentaux, d'être propre. Et celle des éducatrices jeunes enfants, c'est plutôt accueillir les parents et assurer la continuité éducative de l'enfant, en collaboration avec les familles. Et aujourd'hui, moi, je me dis que effectivement, à l'époque, j'étais un petit peu en révolution. Hein, je rejoignais le collectif Pas de bébé à la consigne. Et puis, j'étais aussi un petit peu horrifiée de me dire, il y aura moins de professionnels qualifiés, diplômés, certes. Cela dit, pour avoir moi-même aussi été responsable de structure adjointe et pour avoir encadré beaucoup de stagiaires, CAP petite enfance ou auxiliaire de puériculture, j'ai pu voir que, quelles que soient les qualifications, quand on travaille avec son cœur, quand on travaille avec ses propres valeurs et des valeurs communes propres à un EAJE, on est capable de faire beaucoup de choses et d'évoluer. Mais moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que je me dis que si on réduit le contenu de formation des auxiliaires de puériculture, avec toute cette partie médicale et paramédicale, ça va être compliqué de pouvoir faire de la qualité d'accueil et d'encadrement en ciblant vraiment tous les axes de développement de l'enfant, y compris le lien, les premiers liens d'attachement qui sont mis dès la naissance de l'enfant entre le parent et ce dernier, y compris tout ce qui se passe dans le développement et dans la construction d'une famille. Et toutes ces choses-là, on les apprend aussi dans les hôpitaux. Tout l'historique, le vécu des parents, c'est quelque chose dont on peut pas faire l'impasse quand on accueille une famille en crèche.
Merci de ce témoignage. Alors, c'est pas du tout dans les projets gouvernementaux de revoir de cette sorte la formation des auxiliaires de puériculture. C'était un souhait, une proposition de la FFEC, on est d'accord.
C'est une solution de court terme, c'est-à-dire que nous, ce qu'on préférerait, c'est qu'on reste sur le cursus actuel et qu'on crée beaucoup plus de diplômes et d'écoles. Simplement, je l'ai fait de créer une école, donc je vois le temps que ça prend. Si demain on se remet à en créer, et aujourd'hui c'est pas la direction que l'on prend, ça va prendre 3 ans pour avoir des professionnels qui arrivent sur le marché, si je puis dire. Et donc, si vous voulez, d'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, au quotidien, vous avez des crèches qui sont pas pleines, parce que les gestionnaires n'arrivent pas à trouver les professionnels. Donc on essaye de se confronter encore une fois au principe de réalité, et d'arriver à faire fonctionner des crèches et de trouver des solutions. Maintenant, moi, ce que je préférerais, c'est que les autorités de tutelle sont les régions qui autorisent la création d'écoles d'auxiliaires de puériculture. Il faudrait que les autorités de tutelle ouvrent les robinets. Il y a plusieurs régions où il y a des demandes pour créer des écoles qui sont pas sur fonds publics. Donc le pire, c'est que ça ne coûte rien à l'État et sur lesquelles on n'a pas d'autorisation d'ouverture.
Très bien. D'autres questions ? Non ? Personne ? Tout était clair ? Le calendrier, vous l'avez donné sur la concertation. En gros, ça se changera quand, si ça doit changer. Enfin, c'est en fin 2009, fin 2019.
Et ben, ça dépend. Si tout va bien, donc présentation de l'économie générale de la réforme en décembre 2019. Ensuite, décembre 2018, pardon. Décembre 2018. Ensuite, il y a des petites choses du type passage en Conseil d'État pour les décrets au Conseil d'État, que validation par l'autorité politique. Enfin, là, c'est un peu moins prévisible comme délai de réalisation. Et puis ensuite, on peut prévoir des entrées en vigueur différées selon les dispositions qu'on aura prises. Donc, ça dépend. L'objectif général, c'est tout de même, et même si effectivement, on n'attend pas un appel d'air démesuré. J'entends les appels à la modestie sur les faits de telles ordonnances, mais qu'on ait quelque chose, une vie plus facile à vivre pour les porteurs de projets dès courant 2019.